Bonjour, je m'appelle Pierre Craig. J'ai animé l'émission La Facture durant 13 ans, alors j'en connais un petit bout sur la consommation. Les avocats d'options consommateurs, eux, en connaissent un grand bout là-dessus. Alors ensemble, on vous présente deux fois par mois une discussion sur ce qui touche de près votre vie de tous les jours. Dans notre dernier balado, on vous a parlé d'un modèle d'affaires utilisé par plusieurs entreprises et qui s'appelle l'opting out. On vous offre des produits ou un service gratuit durant une certaine période, c'est habituellement un mois, en vous demandant bien sûr d'abord votre numéro de carte de crédit. Mais après la période gratuite, c'est à vous de trouver comment vous désabonner et parfois, c'est bonne chance à vous. Aujourd'hui, on va parler de nos aînés qui, une fois de plus, sont laissés pour compte par nous, leur société. Vous avez sans doute vu passer ça. Il y a deux résidences pour aînés, des RPA, la résidence Mont-Carmel au centre-ville de Montréal et le château Beau-Rivage, plus au nord de la ville, qui ont été achetés par le même groupe immobilier. Les nouveaux acheteurs veulent transformer ces résidences-là pour aînés en logements locatifs ordinaires, ce qui aurait pour effet de chasser probablement des centaines d'aînés de leur résidence. Les aînés qui veulent y demeurer peuvent le faire, moyennant une augmentation de 3 % du loyer. Mais en fait, c'est beaucoup plus élevé que ça, puisqu'on va leur couper les services infirmiers et les services de réception qui étaient déjà compris dans le loyer. J'en parle avec la professeure de droit Marie-Annick Grégoire et Philippe Poirier-Monette de la FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec. Bonjour Marie-Annick, bonjour Philippe.
Bonjour.
Philippe, je vais commencer par toi. Je pense que beaucoup de gens ont vu passer ça, des histoires de Mont-Carmel et puis de Beau-Rivage. Écoute, on parle quand même de plusieurs centaines d'aînés qui vont être obligés de quitter leur logement, leur résidence. C'est quoi ta réaction, ta première réaction à ce qu'on a vu de ces dernières semaines?
Écoutez, c'est inacceptable. Les RPA ont une vocation sociale. Ils doivent soutenir des personnes vulnérables. Donc, puis dans le cas de Mont-Carmel et autres, c'est pas juste une simple faillite là. C'est des gens qui concluent une transaction immobilière et puis le nouveau propriétaire n'a aucune volonté de poursuivre les activités de la résidence privée pour aînés. Donc, c'est sûr que pour nous, au réseau FADOC, là, il y a un enjeu très sérieux à ce niveau-là.
C'est quand même des entreprises, les résidences pour personnes âgées. Bon, je sais qu'il y en a là, qui vont pas bien, les plus petites, mais ça, on parle pas de petites, on parle de centaines de logements là-dedans, qui vont chercher, on va s'en reparler, mais en gros, là, c'est des entreprises qui vont chercher beaucoup de subventions et beaucoup de crédits d'impôt.
Il y a beaucoup de subventions. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de subventions. Il y a les crédits d'impôt pour maintien à domicile qui est accaparé à 85% par des résidents en résidence privée pour aînés. Ils sont soutenus pour des rénovations, des mises à niveau. Ils sont soutenus par les CIUS, constamment. Lorsqu'il y a un enjeu, le CIUS puis le CIUS sont là pour les aider assurément. Donc, il me paraît qu'il devrait avoir une contrepartie. C'est le genre de choses qui se fait pas du jour au lendemain. Il y a des gens derrière ça. C'est des fermetures qui sont des fois qui prennent de court des gens qui pensaient finir leur jour dans un milieu de vie. Donc on les déracine, on les oblige à vivre un autre déménagement. C'est très difficile. Puis okay. Tu l'as dit, Pierre, l'enjeu aussi, là, c'est au niveau des petites résidences puis d'autres milieux de vie, les OPSL, okay. Tout ça, là, ça aussi, là.
Marie-Annick, je veux qu'on revienne là, à Mont-Carmel, entre autres, parce que ça a été le premier. À ma connaissance, c'est pas loin de la rue Sherbrooke, centre-ville de Montréal. Grand, grand, grand immeuble. Je ne sais pas, il y a combien de centaines de logements là-dedans. Ce que les journalistes nous ont appris, mes collègues, c'est qu'il y avait une clause dans le contrat de vente, la clause numéro 7, que le vendeur a obligé, dans le fond, l'acheteur à accepter dans le contrat de vente. Et cette clause-là dit que l'acheteur s'engage à respecter la vocation de résidence pour personnes âgées, ce qu'il n'a pas fait. Alors, est-ce que les locataires, d'après toi, qui connaissent bien les histoires de contrats et de baux, est-ce que les locataires ont une bonne cause?
Bien, écoute, ce genre de clause-là, ça pourrait être considéré ce qu'on appelle une stipulation pour autrui. Donc, c'est quoi une stipulation pour autrui? C'est une clause qui donne un droit, en fait, parce qu'elle confère un avantage, donc qui donne un droit à certaines personnes, même si ces personnes-là n'ont pas signé le contrat. Et donc, ici, moi, ce que je vois, c'est que les bénéficiaires d'une telle clause seraient effectivement les locataires de la résidence pour que cette résidence-là puisse garder sa vocation. Alors moi, je pense que oui, je pense qu'en vertu des règles, la stipulation pour autrui, là, au-delà de tout ce qui concerne la mauvaise foi et tout, là, parce que clairement ici, il y a de la mauvaise foi, on l'a acheté jamais avec l'idée de poursuivre. Bien, à ce moment-là, oui, à mon avis, il y a un recours possible.
Puis mon impression, puis on a lu des articles là-dessus, en tout cas, c'est que les gens qui sont là-dedans vont probablement se battre. Mais écoute, Marie-Annick, là, si tu nous faisais une petite histoire, c'est quoi une RPA? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour s'appeler résidence pour personnes âgées, pour aînés?
Bien, voilà. Alors, la définition comme telle d'une résidence pour personnes âgées a été introduite en 2011 dans la loi sur la santé et les services sociaux. Et déjà, donc c'est une appellation, là, si on veut, pour pouvoir s'appeler résidence pour personnes âgées ou toute autre chose qui rappellerait ça. OK? Donc, peu importe là, foyer ou peu importe le terme qu'on utilise. Donc, c'est un endroit où les gens ont plus de 65 ans et où on offre au moins deux services. Des services infirmiers, des services de sécurité, des services de loisirs, des services de restauration, par exemple. Et déjà, ça avait été critiqué parce qu'au moment de l'entrée en vigueur, on disait déjà, ouais, mais il y a peut-être des résidences où ce sont déjà des résidences pour personnes âgées, mais qui ne voudront pas obtenir le processus de certification obligatoire et qui donc, au bout de la ligne, peut-être vont enlever des services. Et là, bien, on se retrouve exactement dans cette situation-là en ce moment. C'est qu'on a une résidence pour personnes âgées, puis pour éviter tout le processus et pour se soumettre au règlement, bien, dans le fond, enlève des services et dit, bien, débrouillez-vous, tu sais. Et là, ce que ça entraîne, c'est une nouvelle conséquence. Parce qu'il y a un article dans le Code civil qui dit que si on change la vocation d'un immeuble, à ce moment-là, on n'est pas soumis au contrôle des loyers, le fameux contrôle par le tribunal administratif du logement. On n'est pas soumis au contrôle des loyers pendant une période de 5 ans. Cet article-là a été
conclu. Okay, là, tu parles. Oui. Tu parles de l'article 1900. Ben là, je fais mon fin, mais c'est toi qui me l'as dit, alors je le répète. Tu parles de l'article 1955 du Code civil, c'est
Exactement. Ça? Je parle de l'article 1955 du Code civil. Donc, c'est un article qui a été conçu un peu pour, dans des changements de vocation d'immeubles. Par exemple, tu sais, on voit là, les anciennes usines qui sont transformées, par exemple, en logement. Bon, donc là, on se disait à ce moment-là, peut-être que la personne ne peut pas encore évaluer tous les coûts. Donc, on va lui permettre pendant 5 ans de s'exclure du contrôle parce qu'il y a vraiment un changement de vocation. Donc, mais quand on regarde l'article 1955, là, quand même, on nous dit que donc, le changement de vocation à des fins de logement. Alors là, ici, on semble pervertir l'idée de 1955 qui était, bon, une ancienne église qu'on convertit en logement ou une ancienne usine qu'on convertit en logement pour dire, ah, ben là, c'est le même immeuble, il y a des logements, mais il y a un changement de vocation, c'est plus une résidence pour aînés, ça devient un immeuble ordinaire. Et là, donc, ça veut dire que pendant 5 ans, on peut augmenter les loyers comme on veut. Et c'est ce qu'on voit avec mon
cas. Et on s'en privera pas. Et on s'en privera
pas. On semble pas vouloir s'en priver, pas du tout.
OK. Bon, Philippe, 1955, cet article-là du Code civil, la FADOC est un peu en guerre contre ça, je pense. Hein?
Oui, c'est une des réformes qu'on souhaite le plus ardemment là, au niveau de des résidences privées pour aînés. Puis je dirais que même pour les locataires normaux, là, je veux dire, quand on déborde du cadre des résidences privées pour aînés, il y a des gens qui décident de déménager, de quitter leur domicile depuis longtemps, puis d'aller dans un condo nouvellement construit, puis ils veulent pas nécessairement acheter, ils font une location, puis là, après ça, on apprend que le propriétaire décide il prend connaissance de l'article hein, 1955, c'est possible, donc il augmente le loyer. Puis, comme Marie-Annick l'a dit, là, il n'y a pas de limite. Là. Il n'y a aucune limite sur l'augmentation de loyer. Et puis, le locataire n'a pas le choix. Soit il accepte, soit il quitte. C'est un problème. Puis, il faut que ce soit... Le minimum, ce serait d'encadrer l'article. Puis, on considère que pour les RPA, ça devrait être carrément aboli.
Donc, ce que dit, juste pour qu'on se comprenne tous, là, ce que dit 1955, c'est soit pour un immeuble neuf ou pour un immeuble qui change de vocation pendant les 5 années qui suivent soit l'arrivée sur le marché du nouvel immeuble ou le changement de vocation, il n'y a pas de contrôle des loyers par le tribunal, par l'ancienne régie du logement, là, le tribunal administratif du logement. Puis il y a des aînés, là, ben, écoute, Mont-Carmel, je présume ça va être ça, ils leur parlent de 3% d'augmentation, mais tu sais, si jamais 1955 marche dans ce cas-là, ben, ils sont faits, les pauvres gens, hein, Marie-Annick?
C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est pour toutes les constructions neuves, donc toutes les nouvelles résidences et pour exact, ben, pour la vocation de Mont-Carmel. Si effectivement cet article-là s'applique, et là, je trouve qu'on étire beaucoup l'article 1955, mais en même temps, on fait affaire avec des gens vulnérables. Est-ce que tout le monde va vouloir se battre? C'est loin d'être clair. Donc, on étire la sauce.
Oui. Le problème, c'est ça, c'est que les aînés peuvent avoir beaucoup, beaucoup de droits. Ils peuvent en avoir beaucoup, mais est-ce qu'ils sont prêts à partir en guerre? Est-ce qu'ils sont prêts à faire face à des représailles possibles? Ça, c'est une très, très grande question. Mais tu me disais, Marie-Annick, qu'il y en a beaucoup de RPA construites sur ce modèle-là. Bas loyer la première année et grosse augmentation les quatre années suivantes.
Hein? Oui. On entend plein d'histoires d'horreur comme ça, là. Puis les organismes avec qui je suis en communication m'en parlent beaucoup, là. Effectivement, on construit une nouvelle résidence, on attire, on rend ça alléchant avec des loyers qui semblent tout à fait raisonnables et tout de suite, après ça, l'année suivante, on augmente et comme le disait très bien Philippe, à ce moment-là, les gens n'ont pas d'autre choix s'ils ne peuvent pas supporter la hausse de loyer, mais effectivement que de quitter. Il n'y a aucun contrôle possible.
Il y a un autre problème dont tu m'avais parlé, c'est ce que toi t'appelles, je pense, les frais fixes illégaux.
Oui, ben, c'était pas mal l'objet de l'étude que j'ai faite en 2009 qui démontrait qu'effectivement, il y a un paquet de clauses illégales dans les contrats et notamment un paquet de frais qui sont chargés aux locataires. Donc, les règles relatives au logement là, s'appliquent aux résidences pour aînés. Hein? Donc, il faut bien être conscient de ça. Là, c'est un logement. Et donc, notamment, ouais. On ne peut pas mettre des frais fixes pour des problèmes qui pourraient survenir. Prenons, par exemple, un évier qui est bouché. Okay? Donc, si on regarde sur certains sites de certaines résidences, on va vous dire, ben pour un évier bouché, ben c'est 300 $ de frais qu'on va vous charger. Mais ça, on ne peut pas faire ça. Okay. On ne peut pas aller au-delà de ce que ça coûte réellement pour faire débloquer l'évier en question. Et pourtant, on s'en cache même pas, là. On l'affiche sur les sites Internet. Je trouve ça quand même assez fort. Donc, vraiment, là, il y a une impunité totale par rapport à ça en ce moment.
Bon, pour contester ça, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, on a permis aux aînés de se regrouper dans des résidences, mais il faut qu'ils mettent leur nom. Puis on parlait tantôt de la difficulté des aînés à aller au combat, là, puis à accepter que des représailles possibles arrivent. Alors, le regroupement, toi, tu es so-so avec ça, hein?
Ah, moi, ce que je demande, c'est qu'il puisse y avoir l'équivalent d'une action collective, mais pour les beaux, parce que présentement, on peut pas. Donc, de façon à ce qu'il y ait des représentants, par exemple, que ça soit la FADOC ou que ça soit d'autres organismes qui représentent les droits des aînés, puissent effectivement prendre un litige et aller au nom des aînés. La seule concession qui a été obtenue, c'est plutôt que, OK, les aînés peuvent se regrouper dans le cadre du même recours. Mais le résultat ne touchera que ces aînés-là. Donc, si on prend un immeuble de 100 logements comme Mont-Carmel, s'il y en a 20 qui sont plus militants et qui se regroupent, bien, le jugement ne sera valide que pour ces 20-là, ce qui est déjà un problème. Ça devrait être, à mon avis, pour l'ensemble de l'immeuble. Mais ça ne se fait pas présentement au tribunal administratif du logement. Et on devrait protéger ces personnes-là et leur permettre d'être représentées par des organismes de défense, des droits des aînés. Parce que là, dans le fond, ces personnes-là deviennent vraiment, ils viennent dans la mire de ces propriétaires-là. Là. Ils sont faciles à viser. Là. C'est la cible facile. Ils deviennent un peu, excusez-moi l'expression, mais les représentants syndicaux. Là.
Philippe, toi, tu me disais, il y a quand même des choses possibles avec ça, ces regroupements-là. Puis tu me parlais des centres d'aide et d'accompagnement aux plaintes.
Oui, exactement. Les centres d'aide et d'accompagnement aux plaintes, les CAP, comme on les appelle, là, ça, c'est sûr que depuis la réforme tout récente, ils peuvent accompagner les gens, faire la demande, cheminer avec eux, aller même jusqu'à la représentation. Par contre, comme Marie-Annick l'a dit, il faut que le nom des gens soit inscrit. Donc, il y a une avancée. Par contre, les demandes conjointes, ça ne touche pas tous les dossiers, là. On parle de clauses illégales, par exemple un dépôt de garantie, ou on parle de services non rendus, les services qui sont à l'annexe, je dois le dire, ce n'est pas les services dans le bail général, on pourra y revenir, mais les services à l'annexe qui ne sont pas rendus, ben, les gens peuvent faire des demandes conjointes. Par contre, puis ça, on le souhaitait, on l'a demandé au gouvernement, c'est que ce soit possible pour des locataires de faire des demandes conjointes en ce qui concerne les hausses de loyer normaux. Les hausses de loyer qui sont consenties, qui sont demandées par le propriétaire, puis ça, c'est pas possible. Donc, dans un immeuble de 150 personnes, s'il y a une augmentation de loyer de 6 % qui est demandée à chacun des locataires, bien, c'est les 150 locataires qui devront faire des demandes individuelles auprès du tribunal administratif du logement. Puis vous comprenez, là, il y a des gens vulnérables là-dedans qui ne veulent pas s'engager dans ce genre de démarche-là. Donc, on comprend pas pourquoi le gouvernement n'a pas été jusque-là, puis il devrait aller jusque-là pour le bien de la défense des gens, là, puis de leurs droits, là.
Marie-Annick, je reviens à toi. De façon générale, bon, on a vécu, on vit encore la COVID. Il y a eu une diminution des services. Bon, ils ont été comme confinés beaucoup dans leur chambre. Les espaces communs étaient peu accessibles. Il y avait un paquet d'affaires qui étaient peu accessibles. Est-ce qu'ils peuvent réclamer des baisses de loyer, les résidents en résidence pour aînés?
Bien, en vertu du droit commun, je dirais oui, là, parce que en principe, si le service n'a pas été donné, il devrait pouvoir y avoir effectivement un dommage qui est accordé. En fait, je devrais dire comme une baisse de loyer, donc l'équivalent.
Mais tu m'as dit qu'il y avait même eu parfois des augmentations à cause de la COVID. Dans certaines résidences, on utilisait l'existence de la COVID pour réclamer des hausses.
Bien, selon ce que j'ai su sur le terrain, oui, effectivement, parfois, on disait « Ah, ben là, vous pouvez plus vous déplacer vous-même à la cafétéria, à la salle à manger. Il faut aller vous porter votre plateau. Donc, on va vous charger un montant supplémentaire pour aller vous porter le plateau à votre chambre. » C'est quand même incroyable. Non seulement on coupe les services, on les confine dans leur chambre, mais en plus, on leur charge plus pour ça. Je trouve ça, en tout cas, scandaleux.
OK, Philippe, bon, on a parlé ensemble aussi de ça. Il y a eu moins de services à cause de la COVID, mais il n'y a pas eu de baisse de loyer. Puis toi, tu m'as dit qu'il y avait, de façon générale, des problèmes du côté des services. Hein? C'est-à-dire qu'on peut en ajouter, mais on ne peut pas en retirer.
Oui, les services qui sont à l'annexe, là, je donne l'exemple là, d'une dame qui a eu une opération à la hanche, puis qui décide d'intégrer une résidence privée pour aînés, puis vu qu'elle a de la difficulté à se lever, à bouger, ben, elle requiert les services d'entretien ménager, par exemple. Bon, donc elle signe son bail, elle demande les services d'entretien ménager, puis si au bout de 6 mois, elle se sent bien, revenue en forme, puis elle veut faire son ménage elle-même, elle veut cesser d'être chargée pour ce service-là, bien, c'est pas possible de retirer. Il n'y a aucune obligation légale qui fait en sorte que le propriétaire de la résidence privée soit contraint de retirer ces services-là. Donc, ça, là, c'est sur tous les services à l'annexe. Si vous inscrivez au début de l'année pour les services de la cafétéria, puis qu'au milieu de l'année, vous trouvez que les services ne sont pas à votre goût, bien, il n'y a aucune obligation non plus. Là. Vous êtes obligé de payer ça.
Écoute, en gros, là, dans un bail comme ça, ben, tu parles d'annexe, là, il y a comme deux parties. Il y a ce qu'on peut appeler le béton, puis ce qu'on peut appeler les services ajoutés. Là. Bon, inventons ce nom-là pour l'occasion. Services infirmiers, etc. Et ça, Philippe, ça peut représenter des augmentations déguisées, parce qu'à ma connaissance, vous me corrigerez, Marie-Annick et Philippe, si je me trompe, là, mais le tribunal du logement ne gère pas, par exemple, prenons les services infirmiers. Le tribunal du logement, il ne gère pas ça, les augmentations de coûts de personnel des résidences pour aînés. Donc, on peut arriver avec des augmentations de prix de service dans les annexes, là, comme tu dis, Philippe. Puis ça représente une augmentation déguisée, non?
Écoutez, je ne sais même pas si c'est déguisé. c'est flagrant.
C'est même pas déguisé.
Non, exactement. Normalement, le bail en général est géré par le tribunal administratif du logement. Donc, la hausse devrait être concentrée sur ce qui est permis par le tribunal administratif du logement. Par contre, je donne l'exemple, le regroupement québécois des résidences pour aînés, eux, ils souhaiteraient là, qu'il y ait une augmentation distincte pour les services. Là. Puis là, c'est là où on a un problème parce que c'est déjà des loyers. Là, on parle d'une unité sans service, on parle d'un 2 000 $ par mois. Une unité avec des soins assidus, on parle de près de 4 000 $ par mois. C'est déjà des loyers là, immense, énorme. Là. Oui. Puis les propriétaires de résidences voudraient que ça soit possible d'augmenter au-delà que ce que le tribunal administratif du logement le consent. Puis là, on a un problème. Il y a beaucoup de gens. Ce qui va arriver, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'auront juste pas les moyens d'aller dans ces milieux-là. Là.
Hey, je ne sais pas si vous savez, là, on se parle, là, je nous écoute depuis tantôt, puis c'est pas simple à comprendre tout ce qu'on se dit. Et ben moi, je suis le plus vieux, hein, j'ai 70 ans, je trouve pas ça simple. Mais imagine, là, 80, 85, 90, comment ils font? Puis toute l'insécurité, moi j'en reviens pas, là, je vous écoute, j'imagine toute l'insécurité que les résidents de résidences pour aînés peuvent ressentir. Bon, Philippe, je reviens à toi. Au début, on a parlé des résidences pour aînés qui sont très subventionnées. Peux-tu nous reparler, nous repréciser ça un petit peu?
Oui, bien, en partant, là, c'est des édifices qui ont des normes à respecter. Donc, quand il y a des mises à jour des normes, bien, il y a un programme du gouvernement qui est fait pour eux, pour les aider à subvenir aux rénovations, à payer les rénovations. Ils ont du soutien des CIS, des CIUS. Au-delà de ça, si on parle du point de vue personnel, du particulier, il y a le crédit d'impôt pour maintien à domicile, qui porte un autre crédit d'impôt maintien à domicile, mais qui est accaparé à 85% par des résidents qui habitent d'une résidence privée pour aînés. Là, c'est factuel. On regarde où va le crédit d'impôt. Les plus gros montants vont vers les locataires RPA. C'est des tout petits montants qui peuvent être demandés par des gens qui sont dans leur appartement, dans leur maison, alors que la vocation, c'est de les maintenir à domicile.
En dernière question, à chacun d'entre vous de vous dire ceci. Quand on a eu là, des milliers de morts dans nos CHSLD, c'est des aînés pareils, là. C'est peut-être pas des résidences pour aînés, mais c'est quand même des aînés pareils. On a eu des milliers de morts. Et là, on a dit plus jamais, on va s'occuper de nos aînés, puis on va faire des maisons. Écoute, ça a été des promesses. Est-ce que, quand on regarde ce qui se passe et quand on regarde des nouvelles de Mont-Carmel, de Beau-Rivage, etc., est-ce que on peut avoir l'impression que non, c'est comme d'habitude, puis on laisse tomber nos aînés, Marianne?
Ben, moi, je pense que oui, je pense que c'est clair, là. Puis tant qu'on n'aura pas tant qu'on va penser que ces aînés-là doivent se défendre sur le plan individuel alors qu'ils sont en perte d'autonomie, alors qu'ils sont dans une situation de grande vulnérabilité, ça ne fonctionnera pas. Ça nous prend des outils collectifs, des outils sociaux en amont pour pouvoir protéger ces personnes-là. Tant que ça n'existera pas, on ne s'en sortira pas.
Exemple, l'exemple qu'on donnait tantôt, c'est si tu as un édifice de 200 logements, une résidence pour personnes âgées, mais qui puissent tous faire une seule contestation de l'augmentation de loyer au lieu que les 200 soient pris pour la faire seule, ces pauvres gens-là.
Ça, plus d'inspection, plus de contrôle en amont. Donc, vraiment des solutions en amont pour que les problèmes puissent se régler. T'sais, on parlait de l'augmentation tout à l'heure, bien, si on a des fourchettes très précises, si on enlève certaines, par exemple, le fait de l'article 1955, encore là, le fait de pouvoir augmenter comme on veut. Donc, ça prend des solutions en amont. Il faut arrêter de se dire, ces personnes-là ont juste à se défendre d'une façon individuelle. Ça ne fonctionne pas. Et tant qu'on n'aura pas réglé ça, on ne réglera rien.
Ça parle de notre société, Philippe. Hein? Écoute, je reviens encore à ça, Mont-Carmel, Beau-Rivage, là, il y a des centaines, là, 500 aînés qui vont peut-être être obligés de partir. Coudonc, c'est pas un troupeau de bestiaux, c'est du monde. C'est du monde qui ont vécu, c'est du monde auquel on est redevable. Alors, est-ce que tu crois aux promesses de nos gouvernements? Parce que c'est pas juste la CAQ, là, hein? Couillard, Charest, Marois, ils ont tous fait des promesses là-dessus. Est-ce que tu crois encore aux promesses de nos gouvernements qu'on va prendre soin de nos aînés correctement, Philippe?
Moi, je crois qu'au lieu de faire des promesses, il faudrait commencer par les écouter, les aînés. Faudrait regarder c'est quoi qu'ils veulent faire, c'est quoi leur plan d'avenir, ce qu'ils souhaitent. Puis les gens, là, on se le fait dire à chaque semaine, à chaque jour, à quel point ils veulent, proches de leur milieu, ils sont attachés à leur milieu, ils souhaitent rester dans leur communauté. Donc, au-delà des mots, là, faut faut aller dans des gros, un revirement de situation. On lâche l'approche hospitalo-centrée puis on centre sa personne. On donne des soins puis des services à domicile qui sont convenables, qui font en sorte que les gens ne sont pas obligés d'aller voir ailleurs, d'aller voir au privé, de faire avec des crédits d'impôt pour aller chercher des montants parce qu'ils peuvent pas se le permettre. Là. Il faudrait que les CLSC, là, il faut que ça soit le point d'entrée pour les gens pour avoir accès à des services puis des soins. Puis en ce moment, on est très loin d'y être, puis ça va demander un gros tournant de la part du gouvernement.
Je pense qu'il y a pas mal de refondations à faire dans notre système de gouvernement. Merci beaucoup, Marie-Annick. Merci beaucoup, Philippe.
Merci, Pierre.
C'est un plaisir.
Il y a quand même de bonnes nouvelles pour nos aînés en résidence. De retour au travail après un congé maladie, la ministre responsable Marguerite Blais a annoncé des allègements au confinement dans des résidences. Lundi dernier, la limite de 2 visiteurs ou proches aidants a été abandonnée. Ce qui veut dire que nos aînés pourront recevoir jusqu'à 10 personnes en respectant les consignes sanitaires, bien sûr, ce qui implique que les espaces communs seront rouverts. Et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle. Dans les salles à manger des résidences, il y a 10 personnes qui pourront prendre place autour d'une table à 1 mètre de distance les unes des autres. Et à partir du 14 mars, plus besoin de présenter une preuve de vaccination pour accéder à ces résidences. Voilà, je vous quitte là-dessus. Portez-vous bien. À la prochaine.